Chapitre 51. Les grandes façades vitrées de la zone industrielle de Kista reflètent le ciel strié de nuages. Une Lexus argentée et brillante passe à grande vitesse sur l'autoroute. La voiture est silencieuse. Mais Stéphane Broman a la tête qui bourdonne après sa longue journée de travail à l'hôpital Karolinska. Il a fait des allers-retours entre le bloc opératoire et l'unité de soins intensifs. Dans son métier, il est constamment en proie au stress. Un anesthésiste doit avoir une vue d'ensemble tout en restant concentré sur chaque détail. Il sent qu'il a besoin de se détendre. Il n'aura pas la responsabilité de sauver des vies pendant plusieurs heures. Il peut donc penser un peu à lui. En descendant au parking de l'hôpital, il a essayé d'appeler Saga. Mais elle ne répond plus depuis qu'il a cherché à l'attirer à sa fête. C'était une erreur. Il avait cru qu'elle était suffisamment instable et brisée pour accepter sa proposition. Stéphane bifurque et roule en direction de Riesingplan, entre des tours qui évoquent un alignement de pierres tombales. Il s'arrête devant un immeuble jaune pâle parsemé de taches délavées là où des graffitis ont été enlevés. Le pignon ne comporte que deux fenêtres au sous-sol. Derrière des barreaux et des vitres sales, les stores sont tirés. Il envoie un SMS à sa femme Jessica pour l'informer qu'il ne rentrera pas à temps pour le dîner. Il sort de sa voiture, ouvre le coffre, prend sa valise cabine et la traîne jusqu'à un petit escalier en béton recouvert de mousse et de moisissures. Sur la porte en acier bleu, un panneau en plastique indique « Yemoja Massage ». Il y a 3 heures, il a pris 2 Viagra, soit un total de 100 mg de sildénafil. Il a mal à la tête et son visage est brûlant. Depuis que Stéphane s'est avoué ses tendances particulières, il a essayé 10 d'escortes différentes et visité au moins 30 salons avant de trouver celui-ci grâce à des recommandations anonymes. Il a commencé par formuler des demandes non négociables, notamment le fait qu'elle reste silencieuse et absolument immobile et n'utilise pas d'huile ou de lubrifiant. Il s'est montré amical et poli et, à chaque fois, il a laissé un pourboire très généreux. La 3e fois, il a exprimé sa véritable proposition et a indiqué combien il était prêt à payer. Impressionnés par la somme proposée, elles ont commencé par l'écouter. Mais l'idée d'être mise dans une position bien trop vulnérable les a effrayées et elles ont finalement refusé. Stéphane a alors divisé son offre par 2 et a permis à l'une d'elles de rester éveillée et de les regarder pour s'assurer qu'il s'agissait bien d'un rapport sexuel ordinaire. La semaine dernière, pour la première fois, elles ont consenti à être anesthésiées ensemble. Un univers s'est ouvert à lui lorsque, pendant 1 heure, il a totalement possédé 2 femmes inconscientes. Leur corps mou n'exigeait aucune performance. Elles ne pouvaient pas faire de comparaison. Pas d'épouse insatisfaite qui s'ennuyait. Personne qui regardait sa montre en attendant qu'il termine, ou qui se masturbait en pensant à autre chose. Depuis, il ne cesse d'y repenser. Il n'a pas d'autre choix que de recommencer. Dans ce pays, il y a des drapeaux arc-en-ciel sur les bus. Tout est permis et accepté. Mais lorsque des adultes concluent un contrat incluant sexe et argent, ils sont poursuivis par la police et bafoués par les féministes, grommelle-t-il pour lui-même. Son cœur bat plus fort lorsqu'il ouvre la porte en acier, descend l'allée et passe devant un pot d'orchidées en tissu blanc. Il entre dans une petite salle d'attente avec 2 fauteuils et le magazine Elsa posé sur une table. Des bougies parfumées flottent dans un bol rempli d'eau. Sur l'un des murs est accroché un petit tableau représentant une femme dans une robe chatoyante faite de coquillages et de perles. Une serviette dépasse d'un panier à linge. Il reste immobile, la main posée sur son bagage cabine, en attendant que le mal de tête s'estompe. Son visage est encore chaud à cause de la forte dose de sildénafil et sa vision devient parfois floue, comme s'il regardait à travers de la cellophane. Une chasse d'eau est tirée et les canalisations se mettent à glouglouter. Un téléphone sonne. Pooh entre dans la salle d'attente en s'essuyant les mains sur les fesses de sa jupe en jean. Les bretelles rouges de son soutien-gorge sont parallèles à son débardeur en lin noir. Son vrai nom est Mapula, mais elle se fait appeler Pooh, comme dans Winnie the Pooh. « Bonjour, » dit-il. « Stéphane ?» Nina est là. « Sous la douche ?» Stéphane sait que le salon est contrôlé par le réseau criminel Ramon X et que, par conséquent, il est difficile à Pooh et à Nina d'envoyer de l'argent chez elle. « La journée a été bonne ?» demande-t-il. « Bonne ?» Pooh ne sourit jamais. Ses yeux sont ternes, comme lavés de toute vie. Elle est mince et gracieuse, porte des cheveux mi-longs coiffés en une trentaine de tresses fines, ornées de perles dorées. « Nina est bientôt prête ?» demande-t-il. « Il faut qu'on parle. La dernière fois, t'as fait quoi en fait ?» demande Pooh. « Ce que j'ai fait ? Ce pourquoi on s'était mis d'accord ?» répond-il avec un sourire étonné. « T'es sûr ?» Nina sort de la salle d'attente, vêtue d'un jogging rose, de sandales de plage et d'un t-shirt avec un cœur scintillant sur la poitrine. Elle mesure à peine 1,50 m. Ses seins sont presque inexistants et elle n'a pas de taille. Ses cheveux noirs lui arrivent aux épaules et sa frange est coupée juste au-dessus de ses sourcils. Sa bouche sourit, mais ses yeux semblent toujours inquiets. « Je paie 10 fois plus que les autres. » dit-il en haussant les épaules. « On sait, mais Nina saignait, » dit Pooh d'une voix éteinte. « Comment ça saignait ?»« Des fesses, » répond-elle. « Je n'ai rien fait avec vos fesses, » dit-il. « Nina, je te promets. » « Oui, mais après, elle saignait, » répète-t-elle. « Non, enfin, je fais vraiment très attention, je vous l'ai dit, je suis médecin. » C'est ma responsabilité. Je fais attention à vous, c'est juste que c'est mon truc. Chacun a son truc. Je n'ai pas besoin de vous le redire, ça, c'est juste mon truc. » Les muscles de son épaule gauche se tendent lorsqu'elle lève la main et replace quelques tresses derrière son oreille. « Tu sais que t'as pas le droit de faire des trucs bizarres, sinon faudra que j'en parle à Ramon, » dit-elle en fronçant les sourcils. « Des trucs bizarres ? Mais j'ai rien fait de bizarre, attends. Bon, pardon, je me suis peut-être un peu emballé la dernière fois. Et j'ai enfoncé un doigt dans son anus. Mais c'était pas du tout violent. Je sais pas pourquoi elle a saigné, mais ça doit forcément être à cause de ça. Je te promets que je le referai plus. J'ai juste des rapports sexuels normaux. Je sais pas, » soupire Pooh en regardant Nina. En réalité, sous anesthésie, Stéphane leur a fait à toutes les deux un lavement à l'eau additionné à des laxatifs. Il a aussi eu des rapports vaginaux et anaux sans préservatif, puis a enfoncé une bouteille de coca dans l'anus de Nina et a ensuite pris des photos. « Tu veux que je m'en aille ?» demande-t-il d'une petite voix. « J'avais aussi des bleus sur les cuisses, » dit Pooh. « Ça, c'est pas à cause de moi, » répond-il. « Tu dois promettre d'être prudent. »« Bien sûr, je le suis toujours. »« Et ne rien faire de bizarre. »« Fais-moi confiance. »« Tu le penses vraiment ?»« Oui, je le pense vraiment. »« Je vous paie très bien. »« Vous pouvez envoyer de l'argent chez vous. »« Je suis un homme doux, je suis propre, prudent. »« Un médecin spécialiste. »« Vous avez juste à dormir un peu. »« Qu'est-ce que tu en penses ?» « Nyang ?» demande Pooh. « Je le fais si tu le fais. » répond tranquillement Nina. « D'accord, Stéphane. On le fait encore cette fois, vu que tu es là. »« Merci. Mais s'il se passe un truc bizarre, c'est terminé. » dit Pooh.